Je vais introduire maintenant la présentation du professeur Jacques Maresco, qui est professeur en chirurgie, qui est fondateur et directeur général de l'Institut Hospitalo-Universitaire de Strasbourg, qui est un centre d'excellence dont le but est de développer la chirurgie mini-invasive, guidée par l'image et l'informatique, et d'encourager le transfert de technologies. Alors Jacques Maresco est également le président fondateur de l'IRCAD à Strasbourg, l'Institut de recherche sur le traitement des cancers de l'appareil digestif, dont deux centres miroirs ont été créés à Taïwan et au Brésil. Il a également fondé l'Institut européen de téléchirurgie, qui forme chaque année environ 4000 chirurgiens venus du monde entier. En 2001, Jacques Maresco a réalisé la première opération chirurgicale laparoscopique transatlantique depuis New York sur un patient qui se trouvait à Strasbourg. Et en 2007, il est devenu le premier chirurgien à réaliser une opération chirurgicale sans cicatrice. Jacques Maresco et son équipe ont publié un très grand nombre d'articles et de communications dans des revues telles que Nature, New England Journal of Medicine, JAMA, Annals of Surgery, Archives of Surgery. Jacques Maresco a été invité à prononcer des conférences prestigieuses dans le monde entier, notamment la conférence d'intronisation des chirurgiens anglais à Londres, la Nobel Lecture à Stockholm, la Fogarty Lecture à l'Université de Stanford. Il a reçu de très nombreux prix et distinctions. Il a été récompensé par de nombreuses universités internationales. Il jouit du titre de résident honorifique attribué par le Royal College of Surgeons de Londres, ainsi que par la Société japonaise de chirurgie endoscopique. En France, Jacques Maresco est membre titulaire de l'Académie de chirurgie, de l'Académie de médecine et de l'Académie des technologies.
Je vous propose de l'applaudir. Merci, bonsoir. Merci, Nicolas Ayas. Donc, je vais essayer en une demi-heure de vous parler de la vision qu'on a de la chirurgie de demain. En restant très humble, là, mes trois premières diapositives sont prises de Thomas Krummel, qui est le chairman de Stanford, et à chaque fois qu'il parle aussi du futur de chirurgie, d'abord il dit qu'il n'y a aucun expert du futur, et ensuite il montre quelques exemples, il en a une dizaine, moi j'en ai que deux. Vous voyez, Lord Kelvin en 1897, la radio n'a aucun futur, ou Kenneth Olsen, il n'y a aucune raison pour qu'un particulier ait un jour un ordinateur à la maison. Donc juste pour vous dire que tout ce qu'on va vous dire aujourd'hui, peut-être que dans 20 ans, il va y avoir des diapositives comme celle-là. Quand on a une idée sur, par exemple, quelle est la vision de la chirurgie de demain, il faut d'abord arriver à un bon moment. On a eu la chance, puisque ce bon moment en chirurgie a été la plus grosse révolution que la chirurgie n'ait pas connue, qui date de 20-25 ans, c'est-à-dire que tout d'un coup, et c'est un Français, Mouret, a trouvé qu'au lieu de faire des grandes cicatrices, on arrivait à opérer en introduisant une petite optique, 10 mm de diamètre, on branchait une caméra, et c'était le début de la chirurgie qu'on a appelée la chirurgie laparoscopique ou la chirurgie mini-invasive. Et vous voyez un exemple, c'est-à-dire que le chirurgien n'a plus aucune grosse cicatrice sur le malade. Il introduit juste cette optique, cette caméra, et il voit à l'intérieur une vue parfaite, bien sûr, parce qu'il y a une magnification de l'image. Ensuite, il faut, quand on veut avoir une vision de quelque chose, prendre un peu une idée, une grande idée de quelqu'un. Et je pense qu'on a tous en idée une conférence qui a changé notre manière de voir dans notre spécialité, nous a un petit peu sorti de la routine. Pour moi, ça a été en 1991 à Cologne, je pense que j'oublierai jamais, une conférence de Rick Satava, c'est un chirurgien, colonel de l'armée américaine, qui avait une vision phénoménale. Je pense que j'ai compris moins de 20% de la conférence, puisqu'il était chirurgien, il parlait un peu comme toi tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il arrivait à parler de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de la robotique, il n'y avait pas de robots chirurgicaux à cette période, du futur d'Internet qui n'existait pas. Donc j'ai été fasciné quand je suis rentré avec mes collaborateurs, j'ai dit je suis convaincu que la chirurgie va totalement bouger en faisant introduire bien sûr le monde de l'informatique. Alors, il faut aussi un environnement correct, on a la chance, Strasbourg n'est pas une grande ville, mais on a notamment une université des sciences qui est très, très forte, et donc bien sûr ça nous aide à concrétiser les projets. Alors depuis le début, c'est-à-dire depuis la création de l'Institut, qui en fait a été un institut privé à but non lucratif, parce que si on se remet 20 ans en arrière, la science informatique n'était pas une science à l'Inserm. Moi, en tant que chirurgien, je travaillais à l'Inserm, et à l'Inserm, il y avait que la biologie moléculaire, enfin l'infiniment petit, et pas la science informatique. Donc c'était impossible d'avoir une structure officielle. Et donc, on a réussi à monter un institut totalement privé, financé par un Américain de New York, qui était le CEO de United States Surgical Corporation. Et depuis le début, on avait la même idée de se dire, la chirurgie va suivre exactement la même évolution que l'aéronautique. Quand on regarde l'aéronautique, on voit, on est frappé déjà par la préparation du vol que fait le pilote, et ensuite le cockpit. Le cockpit, ben, c'est exactement, non pas le bloc opératoire de demain, mais c'est déjà celui qui existe maintenant. Le pilote, il voit bien sûr en face, au-delà de sa vitre, mais il voit dans la vitre, c'est vraiment la réalité augmentée. L'avion a des senseurs, des acquisitions 3D. Et en fait, on s'aperçoit que le bloc opératoire a exactement la possibilité de fournir toutes ces données aux chirurgiens. Et la chose la plus importante, et je pense que c'est la raison pour laquelle on est là, c'est qu'on a été fasciné par l'importance de l'image et comment c'est en fait l'image qui va totalement transformer l'acte chirurgical pour qu'il soit de moins en moins invasif, avec notamment cette idée de... on parle de médecine personnalisée, mais aussi de chirurgie personnalisée, puisque vous n'avez pas une anatomie qui ressemble à l'anatomie de votre voisin. Et donc, on a énormément travaillé. Je ne vais pas rappeler toute l'histoire, mais je sais qu'après cette conférence, j'ai eu l'occasion d'aller à l'INRIA. J'ai découvert à l'INRIA, c'est assez amusant, presque les mêmes images là, que tu as montrées sur l'évolution de la sclérose en plaques. Et je me suis dit, mais le chirurgien, c'est ce qu'il veut voir. Le chirurgien, il a des difficultés à voir ces images uniquement en 2D. Ce qu'il veut voir, c'est la reconstruction, c'est l'évolution dans le temps. Et donc, vous voyez que le cercle qui nous intéresse, nous, en se disant... Ça, on n'en est pas sûr, mais en se disant peut-être un jour, la chirurgie va devenir semi-automatique ou automatique, on en est convaincu. Il va falloir, à partir de l'image médicale, avoir une image en 3D, mais cette image en 3D, ça ne doit pas être simplement le rendu volumique que vous donne un scanner normal ou une IRM, ça doit être quelque chose avec une interactivité. Il faut que cet organe en 3D, vous puissiez le toucher, vous puissiez simuler l'opération. Et donc, on va voir différentes étapes que sont la première, le planning. Le planning, c'est quelque chose de très important. C'est comment nous, en tant que chirurgiens, on va préparer l'acte chirurgical. Et pour ça, il faut déjà une connaissance parfaite de l'anatomie de ce malade. Et l'anatomie de ce malade, elle est souvent très difficile à comprendre sur les coupes de scanner. Et là, vous voyez, c'est une des dernières images. On l'a publiée dans le New England en 2012. Juste pour nous qui avons connu l'évolution, les 20 dernières années de l'image, tu t'en souviens aussi, où tout était digitalisé, des petits modèles, c'était pas très beau. Là, quand on voit ça, c'est exactement les livres d'anatomie chirurgicale que nous, on avait, très sophistiqués, très perfectionnés. Et par exemple, pour ce malade, vous allez voir en deux minutes l'intérêt, c'est-à-dire qu'on voit très bien cette grosse artère en rouge derrière, elle passe derrière l'œsophage et pas devant. On sait qu'à partir de ce moment-là, il y a une anomalie du nerf récurrent, donc on sait que la stratégie chirurgicale va être différente. On l'applique actuellement, donc ce n'est vraiment pas de la science-fiction, on l'applique tous les jours, c'est-à-dire que tous les jours, au staff, notre ingénieur informaticien, qui est un des élèves de Nicolas Ayache, est là pour nous montrer sur grand écran la reconstruction, comme par exemple ici, un foie avec, vous voyez, les trois boules vertes qui sont des métastases d'un cancer colorectal. Et vous voyez qu'il arrive déjà à tout nous délimiter, puisque en chirurgie, ce qui est important, notamment dans le foie, il y a le foie gauche et le foie droit, la vascularisation est toute différente, et ensuite, c'est comme un gros gâteau, il y a 8 segments, et c'est très important, puisque c'est ces segments qu'on va enlever lorsqu'on va faire l'acte chirurgical. Et bien, automatiquement, l'ordinateur va nous donner la position de ces segments, va nous donner le volume de chaque segment, ce qui est très important, puisque quand le foie est malade, notamment si le foie a une cirrhose, on sait qu'il faut un pourcentage important de foie restant pour qu'il y ait bien sûr une évolution favorable de la chirurgie. Et donc, vous voyez, on a cette analyse de l'image. On ne regarde plus du tout les coupes noires et blancs et tout à fait normales du scanner, mais on regarde ces informations en trois dimensions. Et actuellement, l'équipe d'informaticiens, où il y a une trentaine d'informaticiens à l'Institut, vous voyez qu'ils arrivent à reconstruire absolument toutes des différentes parties du corps. Alors ça, c'est la première étape du chirurgien. La deuxième, une fois qu'il a fait son planning, un peu comme le pilote fait sa préparation de vol, c'est la simulation chirurgicale. La simulation chirurgicale, ça veut dire qu'on va reconstruire aussi en trois dimensions la tumeur qu'on veut opérer. Ici, vous voyez cette grosse boule grise, par exemple, c'est une tumeur qui est située au niveau du rein, une tumeur surrénalienne, donc on va la colorer, c'est toujours plus facile. Donc vous allez voir, elle est colorée en vert. Ensuite, on a la glande normale que vous voyez en beige. Et ensuite, vous avez la totalité des différents vaisseaux, l'aorte, les veines, les organes. On va jusqu'à la peau. Et on fait le scanner du malade dans la position dans laquelle il va être opéré le lendemain. Ce qui fait que, parce que je vous ai expliqué tout à l'heure que c'est interactif, on arrive à prendre des instruments. Et vous voyez qu'on prend, par exemple, cette optique qui est une optique virtuelle avec une caméra virtuelle. Et sur la petite fenêtre en haut à gauche, eh bien, on voit cette boule verte qu'on va devoir attaquer le lendemain. On voit qu'elle est couverte par le pancréas et on va donc pouvoir préparer l'opération. On va pouvoir savoir où on doit mettre les instruments de la meilleure façon possible pour qu'il n'y ait pas de conflit entre les différents instruments, ce qui arrive souvent dans cette chirurgie dite laparoscopique. Et puis ensuite, on va pouvoir aller se promener, se naviguer où l'on veut, c'est-à-dire qu'on va prendre une petite caméra virtuelle, vous voyez, on va rentrer dans la veine cave, cette grosse veine qui va au cœur, on va aller se promener à l'intérieur, on tourne, vous voyez là à gauche, dans la veine qui est la veine rénale, et puis on va aller dans la veine qui est la veine qui est issue de la tumeur pour pouvoir voir sa taille, son diamètre, sa longueur, puisque ce sont autant d'éléments qui vont être importants pour aller, bien sûr, la contrôler le lendemain lors de l'intervention chirurgicale. Donc, planification d'abord, ensuite simulation dans un deuxième temps, et ensuite, ce que tu as montré tout à l'heure, réalité augmentée. Le rêve du chirurgien, quand il opère un organe qui est un organe plein, c'est bien sûr de le voir en transparence. Et qu'est-ce qu'on veut ? Eh bien, on veut bien sûr une fusion des deux images, la fusion de l'image virtuelle qu'on a fait la veille de l'intervention avec l'image réelle que nous donne la caméra pendant l'intervention. Alors, on a fait une première intervention comme ça qui avait été publiée dans JAMA en 2004. C'était aussi une tumeur de la surrénale. Alors, pourquoi surrénale ? Toujours ce qui est ce qu'on appelle derrière rétropéritonéale, parce que ça bouge beaucoup moins avec la respiration, donc c'est pour nous plus facile. Donc, la première étape, vous voyez, on a une analyse, toujours pareil, la grosse tumeur est en vert. On analyse précisément où elle est située, sa vascularisation. Et pendant l'opération, vous voyez, donc un petit peu à droite, en bleu, c'est la veine cave qui va au cœur. Donc, avec les différents instruments de chirurgie laparoscopique et cette caméra, vous voyez qu'on arrive à bien séparer la grosse veine par rapport à la tumeur. Et en transparence, on voit tous les vaisseaux qui viennent ou qui vont à la tumeur. Et ça nous permet de savoir où est la branche, notamment l'artère rénale, c'est important, la veine rénale. Donc, toute cette notion de transparence, bien sûr, facilite le geste chirurgical. Alors, on a dit tout à l'heure, le facteur limitant, c'est que c'est une déformation rigide. Nicolas Yash a montré une image. Je pense qu'on a encore deux plus belles images faites par l'équipe de l'INRIA qui a rejoint Strasbourg de Stéphane Cotin, avec, vous voyez, ce mouvement, puisque, bien sûr, les organes sont vivants, tout bouge, et je suis persuadé que dans moins d'une dizaine d'années, il sera difficile de faire la différence entre le malade virtuel et le vrai malade. Et là, pendant l'intervention, c'est tout à fait remarquable. Vous allez voir que le foie qui a été entouré de ce maillage, eh bien, on va voir comment il arrive à se déformer. Et en haut à droite, vous voyez, non seulement c'est la coque externe du foie qui se déforme, mais ce sont les vaisseaux. Donc ça, c'est une image qui m'a donnée il y a une quinzaine de jours et qui est vraiment remarquable par rapport à la dernière image. Alors, bon, quand on voit, ça paraît simple. Je pense que ces trois ingénieurs travaillant depuis 3 ans sur le domaine, c'est quelque chose d'extrêmement complexe dans le cadre mathématique. Un mot, donc je vous ai dit l'image. Alors l'image, nous, on l'a par le laparoscope. Là encore, il est rigide, hein, il y a de rigide. Et puis, on s'aperçoit que la chirurgie, elle évolue et elle change. Et on doit prendre en compte toutes ces évolutions de la chirurgie, et notamment une évolution qui date de pas très longtemps, une dizaine d'années, qui a été la chirurgie décrite par Chung, qui est un gastro-entérologue de Hong Kong, et par le chairman de John Hopkins en gastro-entéro, qui est Anthony Kalou. Alors c'est assez amusant, ce sont des gastro-entérologues, ce ne sont pas des chirurgiens, donc tous les jours ils sont dans l'estomac, et un jour il y en a eu un qui a eu une idée en se disant, puisque je suis tous les jours dans l'estomac, pourquoi je ne sortirai pas de l'estomac ? Et si je sors de l'estomac, ben, je suis exactement dans les conditions du chirurgien qui lui passe par la peau. Et ça, c'est possible pour plein de raisons. D'abord, l'estomac, il n'y a pas de bactéries parce qu'il y a de l'acide chlorhydrique. Et ensuite, l'estomac cicatrise extrêmement vite, à peu près 10 fois comme cicatrise la peau. Donc, l'idée était une idée assez géniale de se dire, mais en fait, ça veut dire qu'on peut peut-être opérer par les voies naturelles sans aucune cicatrice. Donc, on a immédiatement pris cette idée à l'Institut. On a fait, vous voyez, plus de 600 procédures expérimentales, ensuite sur cadavres. On a vu que l'instrument du gastro-entérologue n'était absolument pas adapté à la chirurgie. Comme l'Institut est très proche de différents industriels, c'est un gros partenariat public-privé, en 3 ans, on a réussi à avoir un prototype très intéressant. Vous savez, pour opérer, c'est comme quand on mange, il faut une triangulation, alors que le gastro-entérologue, il travaille comme ça, avec des instruments qui sortent en parallèle, donc c'est extrêmement difficile. Donc on a développé, bien sûr, cette instrumentation qui rendait beaucoup plus facile. Et ensuite, on a vu les applications cliniques, comme toujours. Alors on était très fiers en 2007 parce que, tu l'as dit, on avait fait la première vésicule par les voies naturelles sans cicatrice. En fait, quelques années plus tard, on s'est aperçu que ça ne servait pas à grand-chose. Le bénéfice était mineur par rapport à ce qu'on appelle les micro-instrumentations. Par contre, Eh bien, tout d'un coup, il y a eu deux révolutions majeures. Il y a eu cette pathologie qui est au niveau de l'œsophage. Personne n'aurait imaginé il y a 10 ans qu'on pouvait l'opérer par la bouche, qu'on appelle l'achalasie, c'est-à-dire que l'œsophage se ferme entre l'œsophage et l'estomac, les gens ne peuvent plus manger. Eh bien, l'opération par la bouche, elle est extrêmement simple. Et là, maintenant, on en fait beaucoup dans le service. Inoue, au Japon, on a plus de 600 cas. Comme toujours en Chine, ça va encore plus vite. Et Zhen, à Shanghai, il y en a 1400 cas en 2 ans et demi. Mais ce qui veut dire que dans quelques années, il sera interdit sur le plan de l'éthique d'opérer un malade de cette pathologie de l'œsophage sans passer par la bouche. Avant, c'était à peu près 15 jours d'hospitalisation, des soins intensifs, réanimation. Et maintenant, c'est en ambulance. C'est-à-dire que la dernière malade avait 92 ans, elle est repartie le lendemain en pouvant manger. Donc, c'est quand même assez spectaculaire. Et alors, bon, là, je ne veux pas vous montrer des vues horribles, mais vous dire aussi que c'est exactement la même chose pour le cancer du rectum. Et là aussi, personne n'aurait imaginé qu'on pouvait opérer le cancer du rectum en faisant une résection totalement large, aussi par les voies naturelles, en respectant toutes les règles oncologiques. Troisième challenge concernant l'image et l'automatisme, c'est bien sûr la robotique. Donc nous, on a essayé à l'Institut de développer tout ce qu'on pouvait faire avec le robot qu'on ne peut pas faire sans le robot. Alors la première, c'était bien sûr une opération à distance. On était très contents, 2001, parce que c'était un challenge technologique. Tout le monde, y compris l'armée américaine, disait on ne peut pas opérer à distance parce que le délai dû au satellite, à la vitesse de la lumière, c'est 600 millisecondes et qu'il faut moins de 200 millisecondes pour pouvoir opérer à distance. Et avec quelques jeunes ingénieurs de France Télécom, en fait, ils ont réussi à régler ce problème, d'abord en utilisant des câbles transcontinentaux ATM, ensuite en comprimant les signaux. Il fallait bien sûr comprimer bien sûr le son, l'image, mais aussi le geste. Et en 2001, on a prouvé qu'il était possible de faire une opération. Moi-même et mon équipe, j'étais à New York. On a pu opérer une malade qui était à Strasbourg, donc 17 000 km, après bien sûr des expérimentations sur animal qui avait été à fond. Mais toujours est-il qu'il a été prouvé qu'il n'y avait plus de barrière géographique pour partager un geste chirurgical. C'est-à-dire que la télémédecine, qui est le partage de l'intelligence et le partage de la connaissance, pouvait atteindre la chirurgie par le partage du geste, alors que normalement, techniquement, c'était impossible. Ça a donc été possible. Ce n'était pas une prouesse chirurgicale, c'était là encore une prouesse de l'ère de l'information. Et on était bien sûr très fiers, parce que pour publier dans Nature, on a été la première équipe, et je pense la dernière pour un moment, à pouvoir le publier. On a essayé depuis 4 fois, on a été renvoyé en 8 jours. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a essayé aussi? C'est de développer cette robotique pour des choses qui n'existaient pas. On s'est aperçu que travailler en tant que chirurgien avec un endoscope flexible et long était extrêmement difficile, déjà parce qu'on avait des grosses difficultés d'orientation spatio-temporelle. Et là, en parlant aux ingénieurs qui avaient rejoint l'Institut, les ingénieurs du CNRS et de l'université, ben vous voyez qu'en 2 ans, ils ont réussi à faire un prototype, qui est un prototype où la jeune ingénieure arrive à manipuler et l'endoscope flexible et les instruments qui vont dans l'endoscope flexible de façon à faire un geste chirurgical qui devient facile, très ergonomique pour le chirurgien. Donc là encore, des progrès qui étaient inimaginables. Et enfin, on a voulu appliquer tout ça à la robotique. C'est-à-dire que si vous imaginez qu'un jour, la chirurgie devient automatique, et sûrement c'est ce qui sera le cas, parce que ça sera sûrement beaucoup plus fiable, là encore comme l'évolution de l'aéronautique, on s'aperçoit que ça n'est pas tellement difficile. Ça, c'est le principe de la robotique actuellement, c'est-à-dire que vous voyez que le chirurgien est à droite, immergé dans sa console, qui est la console, la partie intelligente du robot qui va analyser 1000 signaux par seconde, transmettant ces signaux aux bras armés et aux effecteurs. Eh bien, avec l'autorisation de Intuitive Surgical, la firme, vous voyez comment on a pu faire une opération de chirurgie hépatique et robotisée en mélangeant et en intégrant les images préopératoires de réalité virtuelle. Donc ça, c'est la première étape, un peu comme je vous ai montré tout à l'heure, comment on va planifier l'opération. Donc on sait où est la tumeur, on planifie ce qu'on doit enlever, l'ordinateur automatiquement va nous donner le volume de la masse de foie et de tumeur qu'on enlève, vous le voyez, c'est 11%, on sait que 11%, c'est absolument pas un problème pour les suites opératoires. Et ensuite, tout va être simulé. Vous voyez que là, on va simuler l'insufflation, puisque pour faire de la chirurgie laparoscopique, on insuffle des litres de gaz carbonique. Ensuite, on va simuler la meilleure position des différents instruments pour que le robot se mette en place rapidement et puisse opérer dans les meilleures conditions sans conflit. Donc là encore, ça, c'est assez difficile sur la vidéo, puisqu'on ne se rend pas compte de ce qui est réel et de ce qui est virtuel, de ce qui est un vrai instrument et de ce qui ne l'est pas. Mais là, quand vous regardez à l'intérieur, vous voyez la vue qui est donnée par la caméra, et puis à droite, c'est virtuel. Mais là, par exemple, l'instrument qui s'enfonce, il est virtuel pour l'instant, c'est-à-dire qu'on le voit sur l'écran, mais on comprend que comme la cible, c'est cette grosse tache verte, on sait exactement l'endroit où il va falloir mettre l'instrument pour qu'il aille directement à la cible. Et comme vous voyez qu'il faut mettre à peu près 4 instruments, qui sont les 4 sur lesquels on va aller apporter le robot, bien, la mise en place du robot, qui de temps en temps est de 45 minutes, devient extrêmement facile en une minute et demie, puisque en fait, tout a été planifié en péropératoire. Et ensuite, ben, on va voir que le chirurgien se met dans sa console et il va pouvoir, quand il le veut, en appuyant sur la pédale, voir uniquement l'image réelle que lui donne la caméra en 3D ou l'image réelle et l'image virtuelle fusionnée, ce qui fait qu'il peut avoir cette notion de transparence qui, dans tous les organes opaques, que ce soit le foie, que ce soit le pancréas, que ce soit le rein, sont bien sûr des progrès inouïs, puisque c'est le rêve de tout chirurgien, de savoir où est l'artère, où est la veine qu'il ne faut pas toucher pendant l'intervention chirurgicale. Alors, enfin, je vais vous dire que tout ça a mené à l'idée de se dire que la chirurgie était en train de totalement se modifier. En prenant un petit peu toutes les données de ce que je vous ai donné, on arrive à une nouvelle spécialité, qui est une spécialité, en fait, de chirurgie mini-invasive, mais guidée par l'image. Donc, le terme veut bien dire que c'est l'image qui est au centre de tout l'acte chirurgical de demain. Quand on parle de chirurgie ou mini-invasive actuellement, que ce soit le grand public ou la communauté médicale ou chirurgicale, tout le monde pense que ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire la chirurgie laparoscopique, introduction de la caméra, etc. La majorité oublie les progrès phénoménaux qui sont faits surtout en Asie par l'endoscopie flexible, c'est-à-dire tout ce qui peut se faire par les orifices naturels. Et là, j'ai un exemple qui est clair, c'est la première année au Japon, l'année dernière, où il y a eu plus de cancers de l'estomac, 52 000, opérés par la bouche, que par voie chirurgicale conventionnelle ou mini-invasive, 48 000. C'est quelque chose qui était inimaginable. Et il prévoit dans les 5 ans 80% des tumeurs de l'estomac parce que, justement, les progrès de l'image font qu'elles sont diagnostiquées de plus en plus précocement. Et donc, plus c'est diagnostiqué précocement, moins le geste chirurgical a à être lourd. Et puis enfin, tout le monde oublie l'énorme progrès qui peut être tiré de l'imagerie péropératoire, que ce soit l'IRM interventionnel que vous voyez, avec d'énormes problèmes, qui sont les problèmes ergonomiques, des problèmes d'énergie. Actuellement, il y a une seule énergie compatible avec le champ électromagnétique, c'est la cryoablation, la destruction par le froid. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les radiologues n'ont jamais travaillé ni avec les firmes qui délivraient de l'énergie, ni avec les firmes qui faisaient l'instrumentation, puisqu'ils ont été formés essentiellement au diagnostic. Et donc, c'est la raison pour laquelle on s'est dit qu'avec, en plus, toutes les nouvelles imageries qui arrivent, que ce soit, vous voyez à gauche, la fluorescence qui permet de savoir exactement si l'intestin est bien vascularisé, pas bien vascularisé par la fluorescence, la confocale microscopique est quelque chose d'extraordinaire qui vous permet en temps réel d'avoir l'histologie du patient. Donc toutes ces données sont couplées ensemble pour arriver à cette nouvelle spécialité où on mélange la chirurgie laparoscopique, la chirurgie flexible, la radiologie interventionnelle, en arrêtant de séparer les spécialités en les mettant à part et au contraire en les fusionnant, ce qu'on appelle la chirurgie guidée par l'image. Alors voilà la plateforme telle qu'elle est en train d'être construite et qu'on l'a sur le plan expérimental. C'est que le malade, vous voyez, dans le même temps, il a son IRM, par exemple pour les voies biliaires dans le foie, il a son scanner, ça c'est pour les vaisseaux, les artères, les veines, et il nous faut quelque chose pendant l'opération pour qu'on nous dise en temps réel, où est la position de l'organe, puisque le problème, c'est que les organes bougent pendant l'intervention. Et là, c'est ce que Nicolas Hayash a montré tout à l'heure, ça, c'est une prouesse technologique qui a été faite par Siemens, qu'on appelle le Zygo, qui est un scanner robotisé, qui est en fait un six armes de dernière génération qui donne une image de scanner. Le problème, c'est que l'image de scanner, comme il y a très peu de rayons, puisqu'on va le répéter pendant l'intervention, est de mauvaise qualité. Mais le côté génial, c'est que ces appareils arrivent à prendre les données préopératoires de très bonne qualité et de l'IRM et du scanner, ce qu'on appelle la fusion. Donc vous avez une image de mauvaise qualité, mais immédiatement, vous avez le recalage de l'image de bonne qualité que vous aviez avant. Pour nous, c'est vraiment un changement phénoménal. On avait toujours pensé qu'on s'orienterait plus vers le développement de l'IRM péropératoire. Il y a tellement de contraintes que quand on a découvert cet appareil, le Zygo, on est persuadé que c'est plutôt l'avenir. Alors voilà, juste pour vous montrer que c'est vraiment une nouvelle spécialité. On a eu une chance inouïe, de même qu'à Bordeaux, ils l'ont eu aussi, d'avoir lors du concours des IHU dans le cadre des investissements d'avenir, la possibilité d'avoir un financement de plus de 70 millions d'euros pour ce type de présentation aux juristes et un jury international, donc il n'y a pas eu de piston du tout. Et vous voyez qu'on a réussi à collecter avec les industriels, donc c'est un budget global de plus de 220 millions d'euros pour construire un institut en face de l'institut qui existe déjà, de l'IRCAD, qui est totalement dédié au devenir de la chirurgie guidée par l'image, recherche, éducation, mais également pour les patients. Et alors tout ça pour vous montrer, c'est un petit peu la règle pour avoir l'IHU était de dire on va participer aussi à l'économie du pays, on va faire du transfert de technologie dans le medical device. Et vous voyez qu'on a donc l'IRCAD, il y a le nouveau bâtiment, et tout le reste c'est un biocluster, c'est-à-dire des endroits où on va pouvoir faire ce transfert de technologie et création de start-up. Il y a déjà eu une quinzaine de start-up créées en 2 ans, donc on se dit ben, pourquoi pas, Silicon Valley, ils ont commencé aussi par petits, si on n'essaye pas, on n'arrivera pas. Et je terminerai juste en disant que pour nous, c'était très important de globaliser le concept parce que, comme on travaille sur la chirurgie guidée par l'image, je pense qu'il ne faut pas se dire qu'il n'y a qu'en France on va pouvoir avoir suffisamment de malades, etc. Non, il y a des cultures totalement différentes, il y a des pathologies totalement différentes et on a été très contents de pouvoir faire un centre à Taïwan en 2008. C'est les Taïwanais qui sont venus nous demander d'avoir un centre miroir et un au Brésil. Donc juste un petit truc pour rire, parce que donc ça, c'est le centre qui est à Taïwan, en face d'un gros hôpital. Ça nous a permis de connaître des experts, notamment en Corée du Sud, extraordinaires, avec 100 fois plus de pathologies que ce qu'on peut avoir en Europe. Quand on opère 100 chirurgies du foie, ici en France, on est considéré comme un service énorme. Ils en opèrent 1300 par an. Donc ce qui veut dire qu'ils nous apprennent énormément. Et ce mélange de cultures est fantastique, de même qu'au Brésil, parce que là encore, la pathologie est extrêmement importante. Et surtout, ça nous a permis de connaître un homme extraordinaire, puisque il est fermier, milliardaire, et ils sont très catholiques, Opus Dei là-bas. Il a eu l'inspiration de la Vierge Marie qui lui a dit de dépenser sa fortune pour les pauvres du Brésil. Il a construit un truc mais extraordinaire, un hôpital qui est le plus gros hôpital contre le cancer du Brésil, gratuit pour tous les pauvres du Brésil. Donc il a des bus qui les cherchent en Amazonie, qui ramènent la famille. C'est gratuit pour la famille, il nourrit la famille également. Et c'est lui qui a voulu construire l'IRCAD, donc il a financé également un institut qui est superbe. Merci beaucoup pour votre attention.